Laurent Thion est biologiste, ingénieur forestier et auteur. Dans le cadre des Nuits des Forêts, il nous a fait l'honneur de venir jusqu'à l'usine végétale pour une immersion dans la forêt de la Double. Il nous livre son regard expert et poétique. L'amoureux des arbres, un podcast réalisé par Radio La Belle Verte.
Vous avez participé à la balade ?
Oui.
C'était un bon moment ?
Ah oui, extraordinaire. Ouais, c'est vraiment, je m'attendais pas du tout à ça, je savais pas du tout ce que ça allait être. Et c'est vrai que Laurent, il a, pour un scientifique, il a une façon d'expliquer, je trouve, assez sous forme de conte, de poésie. Donc c'est très accessible et du coup, il nous embarque complètement dans son univers. Et surtout quand il parle des chauves-souris, là, il embarque.
C'est magique.
C'est magique. Ah ouais, on sent qu'il est vraiment, c'est vraiment son truc. Il est vraiment connecté à ça, quoi. Ouais. Non, je ne connaissais pas du tout, en fait.
C'est de la découverte.
Ah ouais, vraiment. Je ne connaissais pas. Je savais pas ce que c'était les balades forêt. Enfin, rien.
D'accord. Eh ben, ça fait plaisir de faire une première fois.
Ah mais complètement. Ouais, c'est chouette.
Vous allez recommencer ?
Ah ben, j'espère bien. En tout cas, s'il y a d'autres propositions, ouais, avec plaisir. Ouais.
On a la chance que tu sois là physiquement et avec notre public, le public de l'usine végétale, pour les amener au cœur de notre forêt que tu viens juste de découvrir et de faire les premières fois de gens qui n'avaient jamais été en forêt.
Moi, c'est ça que je trouve assez extraordinaire, en fait. C'est de pouvoir raconter des histoires, là, avec l'usine végétale, avec cette balade en forêt, dans cette forêt que je connaissais pas. Ce qui était amusant, c'était de partager avec les personnes qui me suivaient la manière... Enfin, la lecture que je pouvais avoir des différents vivants qui étaient autour de nous. Des arbres, à un moment, un rouge-gorge qui racontait ses chroniques. Il était en train de siffloter là dans le sous-bois, mais il avait un phrasé qui était toujours un peu différent, chant après chant. Il racontait une histoire de manière très claire. Moi, ce qui m'a amusé, c'était de profiter des différents éléments que je pouvais voir. Un arbre mort, une loge forée par un pic dans un arbre, à un moment donné, un arbre qui avait perdu une branche. À chaque fois, c'est des petits moments d'histoire qui sont pas liés à la nature en général, mais qui sont liés à un individu. Eh ben, parlons de ces personnes, qu'elles soient humaines ou non humaines. On a tous une histoire. Ce qu'il faut, c'est s'intéresser à chacun de ces individus et puis d'aller chercher justement les petits morceaux d'histoire qu'ils ont vécu et qu'ils veulent bien nous dévoiler. Et de le partager, voilà. Et c'est ça qui m'a intéressé en fait comme exercice autour de cette balade.
Alors moi, quand je rentre dans cette forêt, je la trouve un peu malade, c'est pas le mot, mais je la trouve un peu en manque d'amour, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'arbres morts. On sent à des endroits qu'elle a envie d'exploser, puis à des endroits on sent que là elle est un petit peu fatiguée. Est-ce que les gens te parlent comme ça aussi, comme je le fais moi, des émotions qu'ils peuvent traverser, ou ils sont juste en écoute?
Là, clairement, il y a quelques personnes qui m'ont fait part de leur manière de voir la forêt en général, ou alors de voir leur arbre. Il y a deux personnes là qui sont venues me voir en disant « moi aussi j'ai un chêne » ou alors « moi aussi j'ai un autre arbre, je me souviens plus de l'autre arbre ». Mais à chaque fois, en fait, ce qu'on me présentait ou ce qu'on m'offrait, c'était encore une fois un moment d'intimité d'un humain avec une autre personne qui était un arbre, un chêne ou un autre, dans un contexte encore un petit peu différent. Et ça, j'aime bien ça, tu vois. J'adore qu'on partage ce type d'expérience, ce type de moment. Là, dans la forêt, je l'ai pas vécu de la même manière, la traversée de cette forêt. En fait, je la trouve extrêmement vivante. Mais il y a des portions, effectivement, notamment la plantation résineuse, la zone avec les châtaigniers qui sont en train de mourir,
oui,
ou qui sont tous morts quasiment, qui eux, mais sont un peu à l'image. Alors, ils sont pas complètement tous morts, puisqu'il y en a un ou deux qui repartent du pied. Hein. Donc, il y en a quelques-uns quand même qui ont encore un avenir, mais qui se voient pas tel qu'on a l'habitude de le voir. En fait, on a l'habitude de voir l'arbre grand, majestueux, mais en réalité... un arbre, même s'il repart de souche et qu'il ne fait que 50 cm de hauteur, c'est encore un individu. Et il repart d'une souche, potentiellement, il fait perdurer la souche telle qu'elle était avant. Donc, quel âge a-t-il? Il n'a pas que l'âge des 50 cm, il a l'âge des 50 cm plus la souche qui préexiste. Mais il n'empêche qu'il y a des secteurs avec ces plantations résineuses, effectivement, qui questionnent un petit peu, qui montrent, en plus, avec la fougère aigle qui est en dessous, qu'il y a eu des passages de feu par le passé. Donc, c'est une zone de forêt qui a un peu souffert. Mais qui est bordée par d'autres secteurs de forêt avec des loges de pics. Et là, pour le coup, d'une très, très grande richesse. Mais encore faut-il, du coup, tu vois, aller chercher les processus écologiques qui sont derrière, tous les éléments vivants qui sont derrière. Et il se passe plein de choses. À un moment donné, on était en train de parler sur un secteur donné, justement, du lien entre le bois mort qui est tombé, qui est décomposé par tout un tas de micro-organismes, et qui, paradoxalement, en faisant ça, relargue des minéraux qui sont utilisés par les jeunes arbres qui attendent ces éléments minéraux pour pousser d'autant plus vite. Et c'est assez intéressant parce que ça nous amène à reconsidérer la finitude des choses. En fait, quand l'arbre il est mort, on peut voir un peu une histoire qui s'est terminée. Voilà, cet arbre il est mort. Sauf que il entre dans un nouveau cycle de recyclage où il se relargue pour les jeunes arbres qui sont en attente des éléments minéraux qui le composaient lui. Donc quelque part, il continue un peu sa vie à travers les éléments minéraux qu'il donne aux successeurs, à celui qui vont profiter de la trouée liée à sa chute. Et ça fait réfléchir philosophiquement même sur nous-mêmes, sur notre condition d'humain, sur la vieillesse, le vieillissement, sur le fait qu'à un moment donné, arrive le temps de la mort. Et finalement, c'est quoi la mort? C'est la fin de quelque chose ou c'est au contraire le début de toute autre chose? Ça dépend complètement la lecture qu'on a justement des différents cycles qui nous bercent.
Tous les peuples qui sont proches de la nature ont absolument pas peur de la mort.
Ben oui, moi personnellement, j'ai pas peur de la mort. J'ai pas peur de la mort parce que de ce que je vois en pleine forêt, au contraire, ça alimente une autre philosophie de vie. Et puis du fait que, pour le coup, il faut vivre l'instant présent. À chaque fois que tu es à un endroit, ancre-toi, enracine-toi, profite justement des éléments minéraux qui sont là, étale tes branches pour aller avec tes feuilles chercher tous les éléments organiques qui peuplent ton environnement. Sois attentif à tout ce qui se passe et puis embarque ça dans l'instant qui va suivre juste après.
J'ai lu il n'y a pas très longtemps et je ne sais pas pourquoi je l'ai compris à ce moment-là. Cette notion d'alliance avec la nature, tu vois, se dire mais attends, mais en fait, et je sais pas pourquoi ça a résonné, ça avait jamais résonné comme ça avant.
Mais je crois qu'en fait on s'est déraciné. Alors la génération de mon grand-père, enfin de mes grands-parents, je pense que ils étaient encore proches de la nature, proches des cycles naturels, d'une certaine vision de l'écologie à leur manière. Mon grand-père maternel, il gérait une ferme, il faisait de l'élevage, il était au cœur du Perche, et pour le coup, il était totalement dépendant des cycles naturels. Mais cet exode rural qui nous a amené et conduit dans les villes, où on s'est complètement déraciné, tout est goudronné, on n'est plus en contact avec la terre, on n'est plus en contact avec les cycles naturels, à la limite, les gens qui vivent en ville, qui pleuvent, qui ventent, qui neigent, qu'on soit l'été, qu'on soit l'hiver... Ils prennent le métro, ils vont au boulot, ils rentrent le soir, dodo, ils achètent leurs fruits et légumes qui sont présents, qui peuvent venir de l'autre côté de la planète dans les grandes surfaces. Et puis, les jours passent les uns après les autres. Il y a juste le fait qu'à certains moments, on mette des vêtements de pluie, à d'autres moments, on est en t-shirt. Et voilà, c'est la seule différence dans leur vie. Pour le coup, je pense qu'on s'est vraiment déraciné, qu'on s'est sorti de tous ces cycles naturels et de tous ces cycles écologiques. Moi, ce que j'ai appris auprès de mon grand-père, en fait, il m'a pas légué grand-chose, si ce n'est une attention justement au cycle naturel, à tous les éléments qui pouvaient justifier qu'à certains moments, on a les tomates et on mange les tomates, à un moment, on a les carottes et on mange les carottes. Et puis, il y a des moments où il n'y a rien, c'est un peu plus la pénurie. Et si on n'a pas fait des réserves auparavant, si on ne s'est pas calé dans les cycles naturels de l'année, à un moment, on peut perdre un peu pied. Et j'ai l'impression de l'avoir gardé, pourtant j'avais que 4-5 ans. Après il est décédé, je me suis un peu déraciné de ce moment-là pour aller uniquement dans la ville dans laquelle j'ai grandi. Mais n'empêche que j'en ai peut-être gardé un petit contact qui m'a conduit après à finalement retrouver une sorte d'appétit en retournant dans la forêt. Et j'avais 15 ans quand j'ai rencontré un arbre que j'ai appelé Quercus et qui a été un ami, une référence pour me guider et pour m'amener à avoir un fil conducteur dans ma vie et à retrouver justement les cycles naturels en les observant, en observant tout ce qui l'entourait. C'est vrai que moi, j'allais me poser au pied de cet arbre, parfois avec un bouquin, parfois avec aucun objectif. Puis je regardais un petit peu ce qui se passait. Et assez vite, je me suis réancré à la fois dans les cycles des saisons, à la fois pour moi-même. Et puis j'ai l'impression d'avoir compris des choses. Et à un moment donné, et je pense que c'est vers ça qu'il faut qu'on aille tous, qu'on comprenne exactement ce qui se passe, qu'on comprenne précisément que le pic fort une loge qui va permettre à la mésange de nicher pour manger la chenille qui mange les feuilles des arbres, on s'en moque, on n'a pas besoin de le savoir ça. Par contre, à un moment donné, simplement d'être en phase avec un arbre, avec un sanctuaire forestier, de l'observer, de se nourrir de ce qui s'y passe tout au long de l'année, je pense que ça nous aide à nous retrouver nous-mêmes, à nous réenraciner et puis à nous recaler sur des cycles naturels pour être totalement en phase avec la nature, bien sûr, mais aussi avec nous-mêmes.